Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Lorraine Nemoza.
Bonjour à toutes et à tous. Quel est le lien entre un accident en 1949 où en Bretagne 18 footballeurs perdent la vie et un accident en 1985 à Beyrouth où un journaliste est enlevé et détenu 3 ans comme otage? Le lien, c'est mon invité aujourd'hui qui consacre son nouveau livre à son enfance, dont les souvenirs heureux l'ont aidé à surmonter l'angoisse de sa captivité, un trait d'union entre le petit garçon insouciant et l'adulte enfermé. Un texte qui sonne aussi comme un hommage, un remerciement à la vie, même quand elle est cabossée, comme on le lit dans ce récit intitulé « L'accident », publié aux éditions des Équateurs. Bonjour Jean-Paul Kaufmann.
Bonjour.
C'était il y a 40 ans exactement, en mai 1985. Votre existence a pris un virage qui aurait pu être mortel au Liban, où en arrivant, votre voiture a été arrêtée par 2 kidnappeurs qui vous ont emmené avec Michel Seurat. Il est décédé. Vous avez été libéré 1000 jours plus tard. Pourquoi avez-vous choisi de mettre en miroir cet événement avec la tragédie qui a frappé votre village alors que vous étiez tout petit, à savoir la mort de 18 personnes à bord d'un bus qui a quitté la route?
Oui, alors en apparence, ils n'ont pas de rapport. Et en fait, je crois qu'ils sont intimement liés et je dirais accolés indissolublement l'un à l'autre. Ces deux chocs, donc deux traumatismes, et à la fois, bon, on peut dire que ces deux événements sont imprévisibles et attendus, ce qui est au fond la définition de ce qu'on pourrait appeler la force du destin et son caractère irrévocable. Alors, est-ce qu'on pouvait échapper à cela, à ce premier accident qui a eu lieu dans ma petite commune, à mon accident libanais? Évidemment, à cette question, je ne peux absolument pas répondre.
Mais néanmoins, ça vous a paru pertinent de relier ces deux événements, alors qu'encore une fois, le premier, vous étiez minot, donc vous n'avez pas de souvenirs très précis, si ce n'est ce qu'on vous a raconté par la suite, n'est-ce pas?
Oui, vous avez tout à fait raison, parce que ce livre aussi porte sur ce qu'on pourrait appeler les distorsions de la mémoire. Vous voyez, la construction des événements qu'on croit avoir vécu et qu'on n'a pas vécu, en fait. Donc, alors, le premier souvenir d'enfance que je crois avoir, le doute est important, c'est en effet cet accident de Martigné-Ferchaux où 18 jeunes hommes ont trouvé la mort. C'est un soir de janvier 1949, j'ai 4 ans et demi. Est-ce qu'à ce moment-là, la conscience émerge? Je le crois. Je pense que je n'ai pas pu inventer ce que j'ai entendu, ce que j'ai vu, mais encore une fois, un doute persiste.
C'est comme si néanmoins vous aviez été imprégné par cet événement, bien entendu, qui a traumatisé toute la commune, et ce pendant des années, d'autant plus qu'il y avait une espèce de chape de plomb. Mais on sait à quel point les enfants sont perméables aussi aux sentiments. Mais moi, ce qui m'a frappé, Jean-Paul Kaufmann, c'est je me suis demandé si vous ne mettiez pas ces deux événements en relation. C'était aussi lié au fait que votre père aurait dû aller voir ce match de football. Donc, il aurait dû être dans le bus et finalement, au dernier moment, votre mère le rattrape pour aller ailleurs au cinéma. Donc, comme il n'est pas monté dans ce bus, il a réchappé à la mort. Est-ce que c'est aussi la question de la survie, comme la vôtre, que vous interrogez ici?
C'est vrai que je n'y ai pas pensé sur le moment, à ce que vous venez de dire. Mais cette interprétation que vous donnez, je la crois juste, finalement. C'est vrai que mon père aurait dû figurer parmi les victimes.
Mais ce syndrome du survivant, vous l'avez eu, vous, Jean-Paul Kaufmann?
Bien sûr. Moi, je me vois toujours comme un rescapé. Beaucoup de ceux qui étaient avec moi, Michel Seurat, certes, qui a été enlevé en même temps que moi, mais tous ces otages américains britanniques, juifs aussi, libanais qui ne sont pas revenus. Donc je me sens en effet un survivant, un rescapé. Et c'est la raison pour laquelle aussi je crois que mon livre, mon récit est traversé par ce que je pourrais appeler la joie. Je dirais même, et je l'espère, par quelque chose de jubilatoire. De jubilatoire, parce que je pense aussi que la joie, évidemment, chacun d'entre nous éprouve la joie, une joie, mais cette joie pleine, entière, totale, je crois, malgré tout, qu'elle doit être adossée à la tragédie. Vous voyez, c'est Suran qui disait « la joie, cette conquête sur le monde ». De la part de quelqu'un qui était un profond pessimiste
et désespéré.
C'est quand même, et désespéré, c'est quand même intéressant. Mais je pense aussi que c'est un apprentissage aussi, la joie. Elle ne vous est pas donnée d'emblée. Il faut l'apprendre. Alors, la joie du survivant, la joie de l'homme qui ne se lasse pas de la magnificence du monde, de cet émerveillement d'être vivant. Et que chaque événement, la nature, etc., je ne sais pas, moi, aujourd'hui, l'éveil du printemps, c'est joie simple. C'est joie simple que peut-être les gens qui n'ont pas connu l'épreuve de l'enfermement ne sauraient éprouver.
Alors, c'est vrai, cette joie qui est votre socle, finalement, et qui se constitue pendant vos premières années, et ici vous faites donc le portrait de ce lieu où vous avez grandi, le portrait de vos parents, père boulanger, qui a donc un rapport aussi très manuel, charnel, avec la pâte qu'il pétrit tous les jours, et les odeurs, et le goût, et le bruit. Enfin, vous êtes un enfant très sensoriel, Jean-Paul Kaufmann. Votre maman qui tient la boutique et qui donc se révèle une merveilleuse pâtissière. J'ai oublié, quelle était sa spécialité
là ? Le salambeau.
Le salambeau. Flaubert, alors, déjà là.
Oui, alors à l'époque, évidemment, je ne savais pas que c'était la fille d'Amilcar, mais le salambeau, c'est vraiment un prodige pâtissier. En tout cas, telle qu'elle l'élaborait, c'est-à-dire que c'est le mélange toujours difficile, ce compromis entre le croustillant du caramel et le moelleux de la crème pâtissière. Vous voyez, cet ensemble croustillant du caramel et ce moelleux-là donne quelque chose, une sensation tout à fait extraordinaire. Mais pour revenir à ce que vous venez de dire, moi je crois en effet qu'un fournil de boulangerie peut vous amener très facilement au métier de journaliste.
C'est ce que vous expliquez en tout cas.
C'est un laboratoire des cinq sens, le fournil d'une boulangerie. Et je pense qu'on n'insiste jamais assez sur cet aspect sensoriel du journaliste. Vous voyez, quand vous allez en reportage, l'importance du corps. D'abord, vous serrez la main de celui, du témoin, du protagoniste. Déjà, les capteurs là, marchent à plein régime. Il y a l'odeur de la maison, la lumière, le son de sa voix. Et donc, tout cela vous donne aussi déjà des indications. Et puis, évidemment, le sens le plus important, c'est le sens olfactif. Et je pense que pour les journalistes, c'est quelque chose de capital. Vous voyez, quand on dit « je sens mon sujet » ou « ça sent mauvais », vous êtes en reportage dans une zone de guerre, il y a des détails là qui ne sont pas très rassurants, vous vous dites « ça sent mauvais, il faut partir ». Vous voyez, je pense pressentir, subodorer, le flair du journaliste aussi. Donc, alors, le flair, c'est peut-être le sixième sens du journaliste, le flair, l'intuition.
Ouais. Alors, donc, toute cette éducation sensorielle qui vous prépare, sans que vous le sachiez encore, Jean-Paul Kaufmann, à devenir journaliste. Restons encore un peu lors de cette enfance rurale, dans cette commune qui s'appelle Cornu, en deux mots, où il y a aussi une église remarquable, où vous avez officié comme enfant de cœur, il y a un clocher, donc une enfance heureuse. Vous vous dessinez comme un petit garçon, peut-être un peu turbulent. Est-ce que c'était vrai ou c'est ce qu'on vous a raconté ?
Oui, certainement turbulent, mais ça n'a rien d'original. Ce que je veux dire, c'est que, mon enfance n'a rien d'exceptionnel, mais justement, par son caractère tout à fait normale, prosaïque, eh bien, je pense qu'elle m'a sauvé cette enfance. J'ai eu une enfance heureuse. Bon, aujourd'hui, vous voyez un certain nombre de témoignages de ceux qui racontent leur enfance, c'est véritablement l'enfer. C'est souvent quelque chose d'absolument traumatisant. Moi, je suis désolé, c'est tout à fait le contraire. J'ai eu une enfance enchantée, radieuse, bienfaisante, un peu spartiate aussi, un peu austère. Mais c'est grâce à cette enfance que je crois que j'ai été sauvé pendant ma détention, parce que pendant la journée, cette imminence de la mort, cette angoisse était totalement compensée par les nuits où je n'ai fait aucun cauchemar. J'étais transporté dans ce pays de mon enfance. Et je crois que, au fond, c'était un travail de Pénélope à l'envers. C'est-à-dire que je réparais la nuit ce qui s'était défait pendant le jour. Alors, ce livre-là est véritablement un livre de gratitude. C'est une dette que je rembourse par rapport à cet enfant. C'est pour ça que j'ai voulu la raconter.
Et de ça, vous vous souvenez encore 40 ans après les événements, que vous alliez vous ressourcer dans des souvenirs heureux de l'enfance pour tenir la journée, ce que vous enduriez dans votre geôle.
Oui, c'est un mot simple que vous avez utilisé, mais je m'en veux, j'aurais dû l'utiliser dans mon livre. Plutôt que réparer, ressourcer me paraît plus intéressant et plus significatif. C'est exactement ça, ressourcer. Donc il faut relier tout ça à l'enfant que vous avez été. Et c'est ça la difficulté, ça paraît pas très important, mais en même temps, il faut essayer de faire coïncider l'homme adulte et cet enfant. C'est pas facile.
En tout cas, il y a certainement un lien, Jean-Paul Kaufmann, c'est celui de la lecture et de la littérature. Vous vous écrivez comme un enfant très curieux, voire boulimique. Vous employez même l'expression « ma fureur de lire ». Pourquoi ? Les livres étaient déjà un refuge pour vous ?
Oui, oui, vous avez tout à fait raison. C'est, oui, je me vois comme un lecteur famélique. Et vous avez raison d'évoquer la curiosité. Parce que oui, j'étais certainement un enfant curieux, turbulent, oui, comme l'étaient tous les enfants, curieux. Et puis, en effet, la lecture, il n'y avait pas de livre à la maison. J'ai lu, évidemment, ce qu'on n'appelait pas encore les bandes dessinées. Et dès que je trouvais un livre, et vous voyez, j'ai toujours eu cette hantise d'en manquer. Et cette hantise s'est réalisée pendant ma détention. J'ai manqué cruellement de livres. Et ces quelques livres-là que j'ai eus, les rares livres, m'ont sauvé.
Alors précisément, vous me précédez, Jean-Paul Kaufmann, parce que je voulais lire cet extrait, nous sommes page 243 de votre livre. Vous parlez de votre rapport compliqué et absolu au livre, je dirais névrotique, un besoin constant d'être sécurisé par leur contact, la peur panique d'en manquer. Il se trouve que cette hantise s'est réalisée pendant ma captivité, ce qui advient nous ressemble. Nos obsessions finissent par nous correspondre. Les livres m'ont cruellement fait défaut pendant 3 années. Quelques-uns apportés par mes geôliers, « La guerre et la paix » de Tolstoï, « Le sursis » de Sartre m'ont sauvé. J'ai souvent pensé à cette nouvelle expérience de l'isolement révélée 30 ans plus tôt dans ma petite bibliothèque mal aérée de ma tante. Cette fusion radicale avec le livre, j'en avais certainement éprouvé l'avant-goût, alors que dans le silence écrasant de ma geôle libanaise, à la lueur d'une bougie dont la flamme vacillante avait pour effet de concentrer tout l'être, c'est bien d'engloutissement qu'il s'agissait. Je disparaissais comme noyé dans ma lecture, submergé par une entente complète avec le texte. Fermez les guillemets. Ce sont donc non seulement vos souvenirs d'enfant, mais aussi vos lectures, Jean-Paul Kaufmann, qui vous ont permis de résister ces 3 longues années.
Oui, bien sûr, parce que mais quand je n'avais pas de livre, eh bien, je me remémorais tous les livres que j'avais lus. Ça m'occupait. Donc, cette expérience passée de la lecture m'a sauvé, présente aussi, encore une fois, par les quelques livres que j'ai pu avoir. Au fond, j'ai profité de tous ces auteurs, de tous ces écrivains, égoïstement, d'une certaine manière, ils m'ont sauvé. Oui, peut-être, dans cet acte d'écrire, j'apporte ma petite pierre ma minuscule petite pierre à cet édifice. Il y a certainement un peu de ça. Pourquoi j'ai écrit, je crois aussi, c'est pour échapper à un statut. À un statut qui est celui de victime. Bien sûr que j'ai été une victime, mais ça ne me détermine pas. J'ai été à un moment une victime, mais ce n'est pas ça qui me caractérise. Ce n'est pas ça qui fait une identité. Je pense que j'écris aussi pour faire oublier ce statut de victime. Et trop souvent, on a vu en moi que la victime, ex-otage du Liban. Et c'est sans doute aussi peut-être pour cela que je me suis mis à écrire.
Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie de Jean-Paul Kaufmann à l'occasion de la publication de son nouveau livre intitulé « L'accident » aux éditions des Équateurs, qui retrace ses débuts, son apprentissage dans les années 50 en Bretagne à travers le fil rouge de deux accidents, l'un qui a tué 18 personnes sur la route, l'autre qui a privé de liberté l'auteur pendant 3 ans. Un récit comme une enquête, comme une contre-enquête, comme si vous aviez aussi voulu vérifier si vos souvenirs d'enfance étaient bien réels. Pourquoi ce besoin ?
Oui, là aussi, là, vous dites quelque chose qui me fait grand plaisir, c'est ce côté enquête, ce côté journalistique. Parce que souvent, on dit, vous voyez, de manière un peu méprisante, et je ne suis pas du tout d'accord avec ça, on dit, oh, c'est un livre de journaliste, hein ? On entend ça souvent,
ça veut dire que c'est un peu
superficiel, il n'y a pas beaucoup de consistante. Oui, alors je ne sais pas si de cette façon-là, il est un livre de journaliste, ce livre « L'accident », mais en tout cas, toute cette part d'enquête est très importante.
La documentation, les archives, rencontrer les derniers témoins de l'accident, justement.
Aller aux archives, oui, en effet.
Parce que vous allez jusqu'à rencontrer la fille du conducteur qui a été le responsable de cet accident et qui est décédé. C'est incroyable, Jean-Paul Kaufmann, ce besoin d'aller toujours vérifier à la source.
Bah, c'est peut-être névrotique, là, c'est peut-être ma maladie, je ne sais pas. Oui, c'est vrai que j'ai toujours été journaliste, je me suis toujours un peu comporté comme ça. Qu'est-il devenu? Vous voyez, on s'intéresse souvent à des gens qui ont joué un rôle important, et puis après, ils sont effacés, ils disparaissent, et on a envie de... Mais que sont-ils devenus? Et alors, moi, c'était un petit peu mon obsession, ça. Ce jeune homme qui a été à l'origine de la mort de 18 personnes, et je me suis dit, mais comment on peut vivre avec cela? Il est resté un an en prison, donc il est très jeune. Comment il va vivre avec tout ça? Donc il va se marier, il va refaire sa vie, il va avoir des enfants. Alors je l'ai su un petit peu parce que j'ai réussi à retrouver sa fille, évidemment qui était extrêmement réticente. Et finalement, je l'ai rencontrée. Elle a daigné me raconter ce qu'était devenu son père, etc. Vous voyez, je pense que c'est un livre sur la rédemption aussi. Vous voyez, on n'est pas lié à jamais. Je pense que c'est une des plus belles inventions du christianisme. Je pense qu'on n'est pas lié à jamais à une erreur, à une faute qu'on a commise. Et je crois, ce qui est terrible aujourd'hui, à notre époque, c'est qu'elle est impitoyable. Elle ne pardonne ni le moindre égarement, ni la moindre erreur. Comme si on était indissolublement lié à ce qu'on avait fait, à cette erreur qu'on avait commise, je ne le crois pas. Mais la rédemption, encore une fois, c'est une forme de réconciliation. Et puis ça, je crois que ça, oui, ça peut rendre libre ceux qui sont marqués par la culpabilité aussi.
On a tous droit, en effet, à une deuxième chance. Donc là, on voit bien, Jean-Paul Kaufmann, à quel point vous avez envie de savoir, de connaître la vérité. Mais qu'est-ce que vous alliez chercher quand vous partiez à l'étranger? Qu'est-ce que vous alliez chercher au Liban? Qu'est-ce que vous vouliez savoir quand vous partez?
Comme beaucoup de journalistes, certainement, évidemment, ils ne l'avouent pas, mais il y avait une part de voyeurisme. Voir sans être vu. Être un petit peu extérieur. Et puis un jour, eh bien, vous regardez la lave du volcan et puis vous tombez à votre tour dans le volcan. Et votre regard, évidemment, change du tout au tout, puisque vous devenez, vous, objet de voyeurisme. Il est certain que pendant ces 3 années, j'ai réfléchi à ce métier. Je ne veux pas dire que ça a tué le journaliste, cette histoire-là, mais un petit peu quand même. Parce que, bon, ça a changé totalement ma vision de ce métier.
De la façon dont on l'exerce
Oui, qui apporte aussi peut-être, qui apporte sa part à à cette violence. Oui, je pense qu'on l'alimente quelque part. Il faut en rendre compte. Mais à l'heure actuelle, je crois aussi peut-être qu'on met peut-être un peu de l'huile sur le feu, vous voyez, ce bavardage incessant sur le moindre événement qui a eu lieu. Il faut remplir, mais à force de remplir, on se vide.
Oui, mais il y a toujours la nécessité d'informer. Et sachant qu'aujourd'hui, il y a de toute façon toujours une guerre ou un conflit quelque part et qu'il y a toujours des journalistes qui vont sur le terrain, qu'est-ce que vous diriez, vous, aujourd'hui, à un jeune reporter qui part couvrir un conflit pour informer le monde?
Eh bien, d'abord, de ne pas être pris par cette espèce d'adrénaline. Inévitablement, vous voyez, moi, je l'ai subi. Moi, quand j'étais au Liban, la guerre du Chouf, un certain nombre de conflits, il y a eu un certain nombre de guerres au Liban. Vous voyez, il y a cette excitation-là. On s'y laisse prendre très, très vite. Et il faut s'en garder. Il faut surtout garder la distance. Et inévitablement, on se laisse prendre à cette excitation, à cette, presque cette exaltation. Et je pense que ça peut devenir dangereux. Rendre compte, bien entendu, extérieurement, et c'est à cela qu'il faut tendre. Mais très souvent, on se laisse prendre aussi par ce climat. Vous voyez, en plus de ça, au Liban, ce qui était absolument extraordinaire quand j'y étais, c'est que vous passiez d'un camp à l'autre. Vous voyez, vous alliez voir les milices chrétiennes, puis leurs adversaires, le soir même. Il y avait presque une part de, je ne vais pas dire ludique, parce que ludique, c'est la guerre, il y a des gens qui meurent. Voilà, c'est ce que je dirais à un jeune journaliste.
de faire attention.
Mais Churchill disait, il n'y a rien de plus excitant quand on est journaliste. Il a été journaliste, Winston Churchill, d'entendre les balles siffler autour de vous quand vous n'êtes pas touché par elles, évidemment.
Est-ce que vous gardez un œil sur ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient ?
Bien sûr. Oui, il y a une part, vous voyez, l'identité. Moi, je me sens en effet, je suis né en Mayenne, j'ai vécu en Bretagne, je me sens un peu mayennais, un peu breton, un peu landais. Et quelque part, je me sens un peu libanais aussi. J'ai vécu 3 années, ne l'oublions pas.
Oui, enfin, des conditions très particulières.
Certes.
Vous y étiez retourné d'ailleurs au Liban après ?
Une seule fois.
Pourquoi ?
Pour aller chercher la dépouille de Michel Seurat.
En tout cas, ce goût du savoir, cette curiosité, ce goût de l'histoire, vous l'avez transmis à l'un de vos fils qui est historien.
Aux deux. Oui.
Aux deux, mais je pense à un en particulier qui a publié il y a 2 ans L'Enlèvement, qui revenait sur votre histoire, mais du point de vue de la famille et du combat mené par votre femme. Comment est-ce que vous avez réagi à ce texte, Jean-Paul Kaufmann ?
On en parle souvent avec mon fils Grégoire, donc, qui a écrit L'Enlèvement. Il me dit souvent, de manière... la dérision a joué un rôle important aussi dans mon retour. On n'en a pas parlé, mais il dit « Cher papa, nos deux livres se répondent, L'Enlèvement, L'Accident ». Oui, quelque part, il se complète. Évidemment, ce livre-là, j'ai trouvé très, très beau. J'ai trouvé très beau parce qu'en même temps, il n'est pas hagiographique. Il l'a raconté de manière aussi distante. Et où, on parlait de la dérision, où la dérision aussi n'est pas absente. Je disais tout à l'heure, la dérision, c'est très, très important. Elle a joué un rôle très important, la dérision, dans mon retour. Il y a un personnage dans Beckett, fin de partie, qui dit « Il n'y a rien de plus comique que le malheur. Rien n'est plus drôle que le malheur. » Alors, il ne s'agit pas de se moquer du malheur ou de ceux qui le subissent. Je crois que la dérision est importante. Elle ne résout pas tout, mais la dérision aussi. Il y a une part de dérision dans le livre de mon fils. C'est une manière aussi de ne pas se laisser entamer par l'horreur, par le tragique, de garder la distance. Il y a un côté, je dirais, cathartique, un côté libératoire. Donc, la dérision, oui, c'est un échappatoire, une manière de se tirer d'embarras sans se tirer d'affaire. Ça ne résout pas tout, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Jean-Paul Kaufmann, je ne vous l'apprends pas, puisque vous avez travaillé 7 ans sur Radio France Internationale. Cette station a la chance d'être écoutée dans le monde entier. Donc, à ce titre, je vais me permettre, comme je le fais hélas régulièrement, dédier cette émission aux otages partout dans le monde, aux otages français en Iran, Cécile Kohler et Jacques Paris. Et une émission que je dédie aussi à Boualem Sansal, l'écrivain qui est détenu en Algérie, pour leur dire que nous pensons à vous. Merci beaucoup Jean-Paul Kaufmann.
C'est moi qui vous remercie et je vous remercie de finir ainsi.
Et je rappelle le titre de votre livre, L'Accident, qui a donc paru aux éditions des Équateurs.
Merci.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint. Lorraine Nemoza. Vous pouvez réécouter cette émission sur le site RFI.fr en cliquant sur l'onglet Podcast. Et pour ne manquer aucun numéro de votre magazine, vous pouvez vous abonner à Littérature sans frontières dans votre application préférée et nous laisser un commentaire.